7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour à tous et bienvenue dans 7 milliards de voisins. Smartphone, ordinateur, téléviseur, micro-ondes, réfrigérateur, ces appareils dont on ne veut plus génèrent 53 millions de tonnes de déchets par an. Rien qu'en 2021, cette masse colossale pesait plus lourd que la muraille de Chine. Le problème, c'est que ces équipements, on ne sait pas les recycler en totalité et que leurs composants comme le plomb ou le mercure, s'ils ne sont pas traités correctement, finissent par nous contaminer en entrant en contact avec l'air que nous respirons par exemple, ou le sol de nos récoltes. Alors comment nous en débarrasser ? Peut-être déjà en arrêtant d'acheter un nouveau téléphone portable à la moindre rayure sur l'écran. Mais à l'échelle planétaire, c'est tout le système de collecte, de stockage et de recyclage qui est à faire évoluer. Certains pays comme le Nigeria ou le Ghana se retrouvent poubelles électroniques de l'Europe, devant gérer ses propres déchets, mais aussi ceux d'autres États. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Emmanuelle Frenoux, enseignante-chercheuse à l'ISEN, laboratoire interdisciplinaire des sciences numériques à l'Université Paris-Saclay, et Samuel Sauvage, président cofondateur de l'association Halt à l'obsolescence programmée. On partira aussi au Cameroun, aux côtés de l'association Solidarité Technologique, plus tard dans l'émission. Mais d'ici là, si vous voulez vous joindre à la conversation, le numéro WhatsApp pour nous appeler, c'est le 337 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Bonjour Emmanuelle Frenoux.
Bonjour.
Bonjour Samuel Sauvage. Vous êtes au téléphone avec nous, il y a peut-être un tout petit peu de distance. En 2019, Emmanuelle Frenoux, 2 millions de tonnes d'équipements électriques et électroniques sont mis sur le marché. En France, c'est 7% de plus que l'année précédente. En parallèle, on a collecté cette année-là 47,5% de déchets. Sur cette masse de déchets qu'on appelle les D3E, pour déchets électriques et électroniques, on parle donc aussi bien d'un téléphone portable que d'un lave-vaisselle ?
Oui. Oui, oui, ça va inclure ces D3E. Ça inclut tous les équipements qui fonctionnent ou qui génèrent de l'électricité. Donc, ça part des radiateurs, des climatisations, pour aller jusqu'à l'ampoule de votre salon, qui est aussi un D3E, en passant par le support de l'ampoule, la lampe elle-même. Et effectivement, ça va inclure ce qui comporte un écran d'au moins 100 cm², donc 10 cm de côté, et puis tout le matériel informatique, par exemple, et des très gros équipements également.
Quels sont les équipements qui sont les plus collectés ?
Alors ça, j'avoue que c'est une colle. Souvent, surtout, ce qu'on prend en compte, c'est les très lourds, parce que c'est ceux-là qui permettent de savoir d'avoir un tonnage significatif. Mm-hmm. Par contre, il est compliqué d'avoir...
Parce qu'un smartphone ne va pas peser la même chose qu'un lave-vaisselle.
Voilà, c'est ça. Le smartphone, par définition, est très très léger. Et du coup, effectivement, il entre dans un petit pourcentage du tonnage. Et donc, si on regarde les rapports sur les D3E en France... on a souvent un discours qui est en tonnage et donc une prise en compte de l'élément lui-même qui est compliqué.
Alors l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, nous dit également dans son rapport que 78% de ce qui est collecté est recyclé ou réutilisé. Est-ce que c'est un chiffre qui est bon et où sont passés les 22% qui restent ?
Alors, c'est un chiffre qui est bon en termes de tonnage, là encore. C'est-à-dire que effectivement, on va recycler dès l'instant que c'est collecté dans une filière agréée, une bonne partie des D3E du type, justement, lave-vaisselle, réfrigérateur, etc., qui sont très lourds. Et ça, on sait le recycler bien et en le dépolluant correctement, encore une fois, quand on est dans une filière agréée. Les 20% restants, ils passent ailleurs. Et ailleurs, ça peut être dans une poubelle classique, notamment pour tout ce qui est petit. Hein. Ça peut être dans une décharge à ciel ouvert jetée dans la nature, comme ça peut faire l'objet d'un trafic. Et surtout, ces 20% qui sortent des radars en France, ça devient 80% si on fait des statistiques à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, on ne collecte dans une filière officielle et agréée que 20% des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Sur ce qui est jeté, justement, Emmanuelle Frenoux, combien est-ce qu'on estime que ces équipements sont encore en état de fonctionnement ? Est-ce que tout est vraiment voué à ne plus fonctionner ou est-ce
Alors,
que...
tout n'est pas hors d'état de marche, notamment pour ce qui va être des équipements à vocation informatique ou téléphonique. on va avoir apparaître dans les déchets des choses qui sont encore tout à fait fonctionnelles, des smartphones ou des PC qui sont utilisables, mais qui ont été victimes soit d'obsolescence programmée, soit du marketing, selon les cas. Mais en tout cas, effectivement, on va changer des matériels qui sont parfaitement fonctionnels.
Samuel Sauvage, vous êtes vous le président cofondateur de l'association Halte à l'obsolescence programmée, dont vous venez de parler, Emmanuel Frenoux, et qui s'attaque donc au problème par la base, celle de la fabrication de ces équipements. Est-ce que vous pourriez d'abord revenir sur cette notion d'obsolescence? À travers quoi est-ce qu'elle se manifeste et à qui profite le crime?
Oui, merci, bonne question. C'est vrai qu'on a un sujet d'obsolescence programmée qui a été reconnu en France depuis la loi de 2015, qui en fait un délit. Donc c'est interdit de pratiquer l'obsolescence programmée, c'est-à-dire c'est interdit de réduire la durée de vie des produits de manière volontaire. Et donc ça, ça va se traduire de plusieurs manières. C'est à la fois une question technique, le fait de mettre des objets, des pièces fragiles, le fait de constituer des obstacles à la réparation, de faire en sorte que le produit donc, va être difficile à réparer, de faire ça de manière volontaire. Et puis aussi, c'est des questions logicielles. De plus en plus, on a un logiciel qui permet de faire fonctionner un appareil. Et en réalité, avec les mises à jour et les tailles des mises à jour, on a des appareils qui deviennent inutilisables, alors qu'en soi, l'appareil fonctionne encore dans ses fonctionnalités de base. Donc, on a beaucoup de manières de faire, de réduire la durée de vie des produits. Et c'est en particulier vrai pour le smartphone qui est concerné par ces déchets électroniques, hein, puisqu'on a de 55 à 113 millions de smartphones qui dorment dans nos tiroirs. Donc, on a vraiment des fortunes colossales de smartphones chez nous et qui se retrouvent hors d'état d'utilisation, alors qu'ils auraient très bien pu être réparés ou au moins reconditionnés. Et ces questions de smartphone, par exemple, se retrouvent parce que d'une part, c'est peu réparable, parce que d'autre part, ça n'a pas été conçu pour durer, et aussi parce qu'on a des mises à jour qui vont ralentir le téléphone. Et enfin, parce que les consommateurs, parfois, eux aussi, eh bien, ils cèdent aux sirènes de la publicité et ils vont renouveler leur smartphone parce que, par exemple, ils veulent de la 5G et donc ils vont abandonner leur ancien téléphone qui fonctionne encore. Donc, on a là beaucoup de manières de forcer ou d'inciter à renouveler des appareils qui, pourtant, pourraient avoir une durée de vie plus longue.
Et quelle devrait être la durée de vie d'un téléphone portable selon vous?
Alors aujourd'hui, elle est autour de 2 ans dans la moyenne française. En réalité, il y a des smartphones, par exemple, comme Fairphone actuellement, qui garantissent leur téléphone 5 ans. On peut en penser que c'est un bon objectif d'essayer de viser cette durée de 5 ans pour un smartphone, d'avoir même une garantie. En France, on a des garanties de 2 ans pour les produits. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser pour avoir une garantie de 5 ans pour réellement rassurer le consommateur? Et en réalité, ce n'est pas non plus attendre 20 ans, parce que c'est vrai qu'il y a des évolutions technologiques telles qu'il est difficile de s'engager au-delà des 10 ans, on va dire. Donc, 5 ans, ça pourrait être un bon compromis entre les 2 ans actuels et puis l'état grave de nos ressources naturelles qui fait que forcément, il faut qu'on fasse durer davantage nos téléphones. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que derrière le smartphone, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, c'est certes pas très lourd, mais pour chaque smartphone fabriqué, il faut plus de 70 kilos de matière première extraite. Donc en réalité, l'impact environnemental, il est énorme. Et là, c'est ça qu'il faut considérer quand on regarde l'intérêt général.
Mais alors l'intérêt pour les fabricants d'auto-saboter un peu leur produit, il est purement économique?
Il est en effet économique. On se rend bien compte que lorsqu'un marché est saturé, c'est-à-dire que chaque citoyen, chaque consommateur possède par exemple son lave-linge, eh bien, il va y avoir une difficulté à développer ses ventes au-delà de ce que le marché peut permettre par le renouvellement naturel des produits. C'est de là qu'est née cette idée d'obsolescence programmée, qui est d'ailleurs née autour de la crise des années 30. Donc d'une crise économique et donc une volonté de stimuler les ventes. Donc on a derrière ça une volonté de renouveler plus rapidement les appareils pour forcer les consommateurs donc à acheter, mais en affublant cette problématique d'innovation à chaque fois. Évidemment, un vendeur ne va pas vous dire que c'est parce qu'il faut vendre plus, c'est parce qu'il y a un nouveau produit exceptionnel qui est sorti et qui vous donne accès à cela. Ou c'est parce qu'il y a eu telle ou telle mise à jour qui finalement contraint techniquement le produit. Donc la question économique, elle est centrale, mais nous, on considère que de la même manière, on a une vraie valeur ajoutée à proposer en France, en Europe, une filière de produits qui sont durables, parce qu'en fait, c'est des emplois aussi derrière la réparation, c'est des emplois derrière l'entretien, et qu'en réalité, les emplois qui viennent de produits importés de l'autre bout du monde, ce n'est pas réellement bénéfique non plus pour l'économie française ou européenne. Donc en réalité, pousser vers des produits qui durent plus longtemps, ça peut être aussi bénéfique pour l'activité et pour l'emploi dans notre pays.
On va parler effectivement un peu plus tard de l'intérêt économique de développer cette filière de recyclage et de réemploi. Mais avant, on va dire quelques mots aussi sur la collecte. Emmanuel Frenoux, si moi je veux me débarrasser de mon smartphone au bout de 5 ans, disons que j'ai réussi à le garder 5 ans, ici en France, quelle solution est-ce que j'ai pour le faire ?
Alors, la bonne solution, c'est de passer par une filière agréée. C'est-à-dire, soit effectivement vous allez changer votre smartphone, il aurait pu durer 7 ans, hein. Et vous allez changer votre smartphone. Et dans ce cas, vous allez remettre l'ancien au vendeur. Et lui prendra la charge de le faire passer dans une filière agréée. Si ça, vous ne pouvez pas le faire, il y a d'autres solutions. Votre smartphone est encore fonctionnel. Proposez-le en seconde main. Ou remettez-le, par exemple, à Emmaüs, qui sait gérer ce genre de choses et qui va éventuellement s'en servir directement, c'est-à-dire le réinstaller, peut-être avec quelque chose de plus léger, pour qu'il soit utilisable ailleurs, soit s'en servir pour réparer d'autres smartphones, pour en faire un fonctionnel.
Et s'il passe dans la filière agréée dont vous parlez, qu'est-ce qu'il devient ensuite, mon smartphone ?
Alors, s'il est encore fonctionnel, on peut espérer qu'il finisse en seconde main. Mmh. S'il n'est plus fonctionnel, il est supposé être démantelé entièrement.
Donc découpé en petits morceaux.
Alors, démonter d'abord, donc on va retirer la coque, ça on sait faire, on sait recycler, etc. Ce qui pose plus problème, c'est les tout petits composants et les cartes pour lesquels les métaux, donc il y a plus de 60-70 métaux dans un smartphone. Et comment on fait ? Eh bien, il faut séparer ces métaux, les désallier, et pour arriver ensuite à les recycler. Et ça, c'est la partie très compliquée. C'est la raison pour laquelle, justement, tous les petits matériels informatiques, c'est difficile à recycler, voire c'est pas forcément recyclé parce qu'on ne sait pas faire ou parce que c'est trop coûteux à faire. Parce que, en fait, le fait de désallier ou de récupérer ces métaux va mettre en jeu des techniques qui sont des chauffages à très haute température, l'usage d'acide ou de sel. Bref, des choses qui sont très polluantes. Alors, pas tout à fait autant que l'extraction des matières premières, mais en tout cas, c'est polluant et c'est coûteux. Voire, même si ça ne l'est pas forcément, on ne sait pas forcément faire.
Alors, nous sommes en ligne avec Essonoussé. Bonjour Essonoussé.
Bonjour Amélie, bonjour 7 milliards de voisins.
Vous nous appelez d'Abomey Calavi au Bénin. Essonoussé, si vous voulez vous débarrasser de votre téléphone portable ou, je ne sais pas, de votre réfrigérateur par exemple, comment ça se passe pour vous au Bénin ?
Bien, pour le premier cas de téléphone, c'est un cas spécial ici au Bénin parce que à tous les coins de rue, pratiquement dans tout le Bénin, il y a des techniciens, comme on les appelle ici, des techniciens de réparation de téléphones. Donc les téléphones sont recyclés plusieurs fois. Et même quand moi je ne veux plus vraiment utiliser mon téléphone, quelqu'un est prêt à reprendre, quitte à aller voir son petit technicien au bout de la rue pour qu'il lui répare ça, changer une pièce et tout. Ou alors moi spécialement, moi je ris un peu quand je joue mon tiroir et que je trouve des téléphones que j'ai déjà utilisés, qui sont gâtés, mais qui sont là.
Vous avez un stock de téléphones.
Voilà. Cela veut dire qu'ici au Bénin en général, c'est encore un peu précieux les objets qui se gâtent, surtout les téléphones. On ne veut pas s'en débarrasser. Mais à un moment donné, quand ça concerne d'autres produits comme le réfrigérateur, votre exemple par exemple, à un moment donné, il faut s'en débarrasser parce que ça devient encombrant, on ne peut plus l'utiliser, on ne peut plus réparer. Et là, ça entre dans un circuit. Généralement, ça atterrit sur les décharges. Et des décharges, soit ça pourrit complètement sur les décharges et la pollution y afférente, c'est-à-dire les métaux lourds qui s'infiltrent dans le sol et tout. Mais depuis un temps, il y a un circuit qui s'est installé au Bénin, c'est informel. Il y a de petits bonhommes qui, qui passent dans les rues, qui crient dans public, cela veut dire batterie gâtée, fer gâté, frigidaire gâté et tout. Ils ont des pousse-pousse et ils ramassent déjà sur les décharges. Ils se servent déjà sur les décharges de tous ces produits. Et ceux qui sont dans les maisons, dont peine à se débarrasser, ils passent dans les maisons et ils récupèrent, ils achètent en fait. À vil prix. Et ça entre dans un circuit de recyclage. Eux, à leur tour, ils vont revendre à des gens qui démantèlent ces produits-là, qui pour enlever quelques métaux précieux, qui pour enlever d'autres composantes. Et il y a toujours des résidus qui finissent dans une décharge ou quelque chose du genre. Donc voilà un peu le système de recyclage des produits électroniques au Bénin.
Donc plus, si je comprends bien, et selon CES, plus le produit est encombrant, plus il risque de finir en décharge parce qu'il faut s'en débarrasser, et plus il est petit, pratique, disons à la taille d'un smartphone, plus on va pouvoir vous le reprendre facilement.
Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas une politique, étatique qui recycle forcément ces produits spécialement. Déjà, en ce qui concerne les ordures ménagères en général, c'est difficile à le faire. C'est depuis 5 ans maintenant que le gouvernement actuel a installé un système dans les 5 grandes villes du Sud où les ordures ménagères se lèvent et entrent dans un circuit formel de recyclage. Mais voilà, le reste de tout le pays est encore comme ça. Il n'y a pas une politique qui accompagne ça. Donc, le circuit de recyclage est informel et ça continue de polluer la nature. La pollution est toujours présente. Mais pour les téléphones, on peine à s'en débarrasser parce que quand moi je ne peux plus l'utiliser, quelqu'un est toujours prêt à l'utiliser la main d'œuvre existe. Voilà, la main d'œuvre existe pour réparer un téléphone et voilà.
Est-ce que votre conscience de ce problème influe sur votre façon du coup d'acheter vos téléphones portables?
Non, je ne pense pas. Même si moi je suis conscient de ce qu'il faut. Déjà, quand on parle de conscience, c'est une infime partie de la population qui est consciente de ce que voilà, ces produits peuvent polluer la nature. Donc, il n'y a pas de choix vraiment réfléchi par rapport à ces choses-là. Première chose à laquelle on pense, combien j'ai en poche pour acheter mon téléphone pareil? Ok, est-ce que ça peut m'acheter un téléphone neuf? Non, je ne peux pas acheter un téléphone neuf. Alors là, je vais au recyclage. Mais ce n'est pas en toute conscience. On réfléchit par rapport à sa bourse, à ce qu'on a en poche. Donc, il y a cette éducation à faire près de la population pour que la population puisse intégrer que tous ces produits sont des produits, quelque part, nocifs pour nous, même si ça nous rend service au quotidien.
Merci beaucoup Essonoussé pour votre témoignage. Samuel Sauvage, je vais me faire l'avocate du diable quelques secondes. Alors on a compris avec Essonoussé que la seconde main c'était une solution qui était avant tout financière, mais comme ça a déjà été utilisé, on pourrait se dire aussi que quitte à profiter un maximum de temps d'un produit, autant l'acheter neuf.
Merci pour cette question. C'est important de revenir dessus, en effet, parce que globalement, l'essentiel de l'impact d'un produit, c'est pour le fabriquer. Il faut bien avoir ça en tête. Pour un smartphone, ça va être de 80 à 90% de l'impact qui est lié à sa fabrication. Donc, l'essentiel de l'effort à faire, c'est qu'il faut qu'il dure plus longtemps. Parce que globalement, quand on a extrait toutes ces matières qui sont rares sur notre planète, tout ce processus de fabrication industrielle, de distribution avec des camions et des bateaux partout dans le monde, ensuite, une fois qu'il arrive chez le consommateur, il faut qu'il dure le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'il faut savoir entretenir, savoir essayer de le réparer, etc. Savoir qu'il y a des garanties avant de l'abandonner. Et en effet, le fait de le donner en seconde main, c'est une vraie solution parce que ça va ajouter quelques années à sa durée de vie. Donc, il vaut mieux pas
avoir un besoin d'un appareil neuf et il faut ralentir la production d'appareils neufs parce qu'à chaque fois, c'est des impacts considérables, pour au contraire créer des filières de seconde main. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute au niveau environnemental. Et donc, clairement, il faut promouvoir tout ce qui va permettre de donner une seconde vie à ces appareils qui souvent sont abandonnés alors qu'ils marchent encore.
Alors, on va reparler effectivement un peu plus tard dans l'émission des solutions aussi qui nous permettent d'acheter plus responsable et d'éviter ces déchets électroniques. Je rappelle le numéro WhatsApp si vous voulez témoigner comme Essonoussé. C'est le 33 7 64 45 51 41. Mais avant, on écoute un morceau du dernier album d'IBI, sorti il y a quelques jours. Les jumelles franco-cubaines Naomi et Lisa Kainde Diaz reviennent avec Made of Gold.
Me show them heroes, feel it. We are the anger, the hunger. Me show the heroes, feel it. All right, one more time. Me show them heroes, feel it. We are the anger and the hunger. Me show them heroes, feel it. We are the anger and the hunger.
Holy water, crying at the altar.
Écoutez 7 milliards de voisins sur RFI avec aujourd'hui une émission consacrée aux déchets électriques et électroniques, smartphones, téléviseurs et lave-linge, etc. Avec Emmanuelle Frenoux, enseignante-chercheuse au laboratoire interdisciplinaire des sciences numériques à l'Université Paris-Saclay, et Samuel Sauvage, président cofondateur de l'association Halte à l'obsolescence programmée. Vous avez été nombreux sur Facebook, comme Essonoussé, à nous parler de vos solutions pour recycler vos déchets. Brice, à Yaoundé, au Cameroun, nous dit « Mes vieux objets électroniques, soit je les revends aux ferrailleurs, soit je les donne aux éboueurs du quartier ». Et Onu, à Lomé, au Togo, nous dit « Les vieux matériels sont gardés et servent à réparer les nouvelles. Sinon, on les jette, on vend les matériaux ou on les brûle. » Ça, c'est une question intéressante, Emmanuel Frenoux. Brûler ces déchets, c'est dangereux, évidemment.
Oui, c'est dangereux. Brûler des déchets électroniques, ça va dégager... Alors, il faut bien voir qu'il y a plein de choses dedans, hein. mais ça va dégager des gaz toxiques, et donc ça va venir polluer l'atmosphère. Éventuellement, s'il pleut par-dessus, ça polluera aussi le sol et les eaux. Hein. Quand on a un déchet électronique, quel qu'il soit, il faut d'abord le dépolluer pour pouvoir le traiter. Par exemple, si on parle d'un réfrigérateur, on va d'abord récupérer le gaz dangereux qui se trouve à l'intérieur, le gaz réfrigérant, avant de commencer à démanteler. Hein. Et effectivement, quand on brûle ce genre de matériel, ça permet de récupérer des métaux. Mais on ne peut pas se permettre de le faire sans avoir complètement tout désolidarisé pour pouvoir accéder exclusivement au métal et ne pas risquer de dégager des gaz toxiques.
Est-ce qu'il y a des composants plus problématiques, plus toxiques que d'autres ?
Tout ce qui va être gaz, effectivement, parce que dès l'instant qu'on a une fuite, et ça peut se produire chez vous dans votre cuisine, hein, dans le cas des réfrigérateurs, ça arrive de temps en temps, ça c'est vraiment dangereux. Et ensuite, tous les métaux qui vont composer nos matériels électroniques, dès l'instant qu'on va les laisser dans des décharges à ciel ouvert, parce que tout simplement par ruissellement, ils vont venir polluer aussi bien les sols que les eaux. Et ça va devenir très dangereux assez rapidement, ça va polluer tout ce qu'il y a autour, avec des risques cancérigènes, etc. Donc effectivement, il faut faire très attention à ce genre de matériel, à la façon dont on le démonte.
Alors, on va partir à présent au Cameroun, aux côtés de Silver Wanji. Bonjour Silver.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Silver Wanji, vous êtes responsable d'exploitation technique de l'association Solidarité Technologique. En un mot, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi s'occupe votre association ?
Ok, merci. Déjà, l'association s'occupe du recyclage des déchets électriques et électroniques au Cameroun. Fondée depuis des années aujourd'hui, depuis exactement 2017, on a aujourd'hui fonctionné sous un gros projet, le projet WICAM, qui est un projet qui vise à recycler les déchets électroniques et électroniques dans la ville de Yaoundé et au Cameroun en général.
Si vous avez mis en place ce projet, c'est que les solutions n'existaient pas au départ, je suppose ?
Effectivement, des solutions pas vraiment fiables, pour le dire. Parce qu'à côté de nous, il y a ce qu'on appelle les agents qui font de la collecte. On s'appelle généralement un secteur informel. Il y a des jeunes gens qui se lancent dans l'activité dans le but de collecter des équipements et de reprendre dans les équipements ce qui les intéresse. Ça veut dire que le reste est jeté dans la rue et brûlé, ce qui n'est pas bon pour la nature.
Donc c'est le secteur informel qui est problématique et puis vous dites qu'il est brûlé, mais on se doute aussi que ces jeunes gens dont vous parlez qui récupèrent ces matériaux mettent aussi leur vie en péril.
Bien sûr.
Le projet WICAM dont vous parlez, qui a été mis en place en 2017, comment est-ce que vous l'avez articulé et combien de déchets est-ce que vous parvenez à récolter ?
Les déchets qu'on parvient à récolter, l'année dernière, on a fait plus de 80 tonnes de déchets pour l'année. Donc aujourd'hui, avec l'année qui est en cours, on est pratiquement à moins de 2 tonnes parce que l'activité, avec la concurrence qui est dehors, n'est pas aussi facile. Et déjà, la culture ici, c'est compliqué. C'est pas facile pour les gens de finir des équipements endommagés pour un traitement vraiment adéquat.
Comment
du coup, les gens pensent plus à de l'argent que de faire recycler les produits normalement.
D'accord, donc l'intérêt c'est de revendre son produit plutôt que de le laisser dans un point de recyclage, c'est ça ?
Effectivement.
Qu'est-ce que vous collectez comme équipement ?
Tout ce qui fonctionne au courant électrique, c'est-à-dire que tout ce qui est déchets d'équipement électrique et électronique, tout ce qui fonctionne au courant électrique, sur batterie. C'est-à-dire qu'ordinateur, frigo, congélateur, téléphone, en bref c'est tout ça.
Et qu'est-ce que vous en faites ensuite ?
Nous, à notre niveau, la procédure consiste à aller vers des personnes ou vers des entreprises et qui déjà fait une activité en deux grandes parties, il y a ce qu'on appelle les collectes mélangées et les collectes professionnelles. Une fois un déchet collecté, il est ramené à la base, il est dépollué, il est démantelé, désassemblé, les fractions sont rangées selon les catégories. Une fois les fractions sont rangées, et quand ils ont atteint un tonnage assez important, ils sont maintenant redistribués vers des filières qui font vraiment de la destruction totale, finale.
Je suppose, Silver Wandy, qu'il y a aussi des équipements que vous ne pouvez pas récupérer justement parce qu'on ne sait pas les recycler.
Pour le moment, tout ce qui est décroisé, nous le récupérons. Tout ce qui est déchets d'équipements électriques et électroniques, nous le récupérons. Mais à côté, c'est vrai, il y a des équipements qui viennent peut-être de la santé et tout. On ne les récupère pas encore à notre niveau.
Vous récupérez ça gratuitement ou alors vous demandez, vous proposez une compensation financière peut-être pour inciter les gens à vous donner plus de choses?
Si, concernant les ménages, on récupère contre une petite compensation. Mais à côté, comme je dis toujours, il y a des exemples de sociétés informelles qui sont matin ou soir sur le terrain, aller de maison en maison, de porte en porte, faire le travail que des personnes expérimentées devraient faire.
Merci beaucoup, Sylvain Wandi, d'avoir répondu à notre invitation. Samuel Sauvage, ce projet WICAM, donc, qui récupère, mais en offrant potentiellement une petite compensation pour inciter, est-ce qu'il pourrait voir le jour en France ou est-ce que ici, les gens ont peut-être moins de mal à donner en fait, leur équipement électronique?
Il pourrait tout à fait voir le jour parce qu'en France, contrairement d'ailleurs à des pays comme ce qu'on a entendu au Bénin, par exemple, au Cameroun, où il y a quand même cette tradition de pouvoir réutiliser au maximum. Ici, on a un petit peu perdu, je pense, ce bon sens. Et ce qui est d'ailleurs très dommageable parce que le 20e siècle, on parlait du siècle du pétrole. Maintenant, le 21e siècle, je pense que c'est le siècle des métaux. On a des métaux extrêmement rares, extrêmement précieux dans tous nos appareils électriques, électroniques. Et en réalité, d'ici 10, 20, 30 ans, on va manquer d'un certain nombre de métaux, d'argent, de cobalt, de lithium, etc. Et donc, le fait de s'organiser pour les réutiliser au maximum, aujourd'hui en France, on n'est pas capable de le faire. Souvent, ça finit par être exporté et se retrouver dans d'autres pays, alors qu'en réalité, c'est des mines d'or, c'est des mines réellement qui ont beaucoup de valeur. Je pense que d'une part, il faudrait avoir à la fois des infrastructures pour démanteler, trier et peut-être inciter, oui, comme le dit monsieur, à les ménages à les donner, parce que on a en France, je ne sais pas si vous savez combien d'appareils électriques et électroniques on a dans un foyer moyen. Il se trouve qu'on en a 99. On ne s'en rend pas compte, mais dans la cuisine, dans les chambres, dans le garage, etc., il y a en moyenne toute une série d'appareils en tout genre.
Derrière en état de marche, ceux qui sont en état de marche, et on ne parle pas de ceux qu'on stocke dans nos tiroirs.
Exactement. Et en plus, tous ceux dans nos tiroirs, tout à l'heure, je parlais en effet qu'on a des millions de smartphones dans nos tiroirs, et puis c'est pareil avec les ordinateurs, les écouteurs, etc. Donc, cette mine-là fait qu'en réalité, les citoyens, souvent, ils ne font pas cet effort, ou alors ils n'ont pas l'information ou l'infrastructure qui ferait que ce serait facile de le déposer. Certes, il y a des points de collecte de plus en plus, mais en tout cas, les Français ne sont pas toujours au courant. Et donc, il faut sans doute aller un peu plus loin pour qu'on réutilise davantage, qu'on réemploie davantage, parce que c'est vital en fait pour notre économie et pour réduire notre impact sur l'environnement.
Emmanuel Frenoux, vous parliez tout à l'heure de nos déchets qui sont potentiellement exportés. Où est-ce qu'ils vont?
Alors, ils sont potentiellement exportés quand ils passent dans des filières illégales. Et effectivement, on va les retrouver en Afrique, en grande partie, mais aussi en Chine, pour une partie d'entre eux, ou en Inde. Et dans ce cas-là, ça atterrit dans des décharges illégales et il n'y a pas de garantie de dépollution, il n'y a plus de suivi du matériel non plus. Et on a un gros risque environnemental quand ça part dans ces filières-là.
Alors, selon le programme environnemental des Nations Unies, il y a deux destinations, deux pays en Afrique qui seraient dans le top des destinations privilégiées pour nos déchets électroniques. C'est le Nigeria et le Ghana. Ça veut dire donc que pour s'en débarrasser, certains États se lavent les mains en fait et envoient leurs déchets là-bas.
La pollution est ailleurs que chez nous. Alors, ce n'est pas forcément lié à l'État lui-même, ça peut être une autre façon d'exporter les déchets de façon illégale, c'est que ça échappe totalement aux filières officielles. Parce que normalement, il y a les accords de Bâle, par exemple. Tous les États signataires des accords de Bâle s'engagent à ne pas exporter de déchets polluants à moins d'un accord explicite du pays en face. Je doute que le Ghana ait accepté qu'on lui envoie nos déchets.
Bah, comment ça se fait que le Ghana reçoit des déchets dans ce cas?
Alors, parce que ça passe par des filières illégales. On va trouver effectivement ce genre d'export où les déchets vont disparaître brusquement des radars et on va les retrouver dans des décharges au Ghana. Alors, c'est des choses qui ont été essayées par exemple par des reporters d'Arte ou de France 5, je ne sais plus dans lequel des deux reportages, mais effectivement,
ils ont mis des tags avec, sur des matériels électroniques et regardé où ça atterrissait. Et y compris des matériels qui théoriquement sont dans des inventaires très officiels parce que des matériels issus d'entreprises ont fini par arriver dans ces filières-là.
Est-ce que ces pays peuvent avoir un avantage à accepter peut-être en échange d'une compensation financière?
Alors il y a une forme de manne financière, tout à fait. Parce que effectivement, ce sont des matériaux qui sont précieux. Parce que derrière, c'est ce qu'on entend aussi dans vos témoignages, hein, y a des jeunes gens qui vont aller démanteler les matériels. Il faut voir que c'est effectivement très dangereux pour leur santé parce qu'ils ne sont pas équipés. Si on faisait ça en France, pour respecter les normes environnementales, il faudrait avoir des gants, des protections, etc. Et bien faire attention à comment on entrepose. Dès lors que ça arrive dans un pays où la réglementation est peut-être un petit peu différente en termes de normes environnementales, ou bien juste où c'est dans un cursus complètement illégal, on a de la main-d'œuvre à pas cher, hein. On voit des photos d'enfants sur ces décharges qui sont en train de démanteler les matériels et sans aucune protection. Donc effectivement, il y a une manne financière dessous.
Alors il y a une association néerlandaise qui s'appelle Closing the Loop qui collecte des téléphones portables en Afrique notamment et qui les expédie ensuite en Europe pour qu'ils soient recyclés dans des infrastructures qui savent désallier les petits matériaux dont vous nous parliez tout à l'heure. Et cette association se finance en fait par des entreprises avec lesquelles elle passe des accords et qui en échange lorsqu'elles achètent un équipement électronique ou électrique pour leurs entreprises, de nouveaux ordinateurs par exemple, s'engagent à donner à cette association de l'argent. Une espèce de compensation comme ça, comme on a des compensations carbone par exemple, avec la pollution environnementale. Samuel Sauvage, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'hypocrisie derrière aussi des entreprises qui continuent à acheter du neuf, mais qui disent « c'est pas grave, on se désolidarise, enfin en tout cas on décharge notre responsabilité en finançant le recyclage derrière d'autres équipements ».
C'est sûr que la démarche la plus vertueuse, c'est déjà de s'interroger sur son besoin. On n'a pas toujours des besoins aussi importants qu'on le croit. On peut parfois mutualiser, par exemple. On n'est pas obligé de donner un smartphone professionnel à tous ses employés, ou etc., etc. Donc, on a déjà cette première question. Ensuite, est-ce qu'on a besoin de neuf ? Bien souvent, on peut acheter reconditionné, et c'est vrai que les administrations publiques et les grandes entreprises doivent montrer l'exemple, doivent dire, voilà, nous maintenant, on a pris conscience de ce problème environnemental et on a décidé de s'équiper de produits qui ont été remis en état, qui fonctionnent parfaitement, qui sont garantis, mais qui n'ont pas tout cet impact du neuf. Cependant, après, difficile de jeter la pierre dans le sens où c'est déjà mieux que rien si une entreprise a pris conscience et qu'elle essaye de compenser malgré tout, c'est peut-être un pas en avant, mais dans lequel il faut faire d'autres pas maintenant pour réduire notre impact, parce que c'est vrai qu'on sait en France, par exemple, qu'on consomme l'équivalent de trois planètes hein, dans la capacité de régénération des sols et donc de notre impact. Il faut donc réduire très fortement notre impact. Il ne faut pas juste quelques petites compensations sur quelques produits dédiés. Donc, globalement, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut donner l'exemple en tant que grand donneur d'ordre, grande commande. Par exemple, les pouvoirs publics, c'est 10% du PIB en France. Donc, il faut déjà que toutes les administrations montrent qu'elles peuvent acheter d'occasion, qu'elles peuvent acheter moins, qu'elles peuvent acheter autrement, qu'elles peuvent mutualiser. Et derrière ça, on va avoir aussi une filière qui pourra plus se structurer parce qu'on verra qu'il y a un marché beaucoup plus important en demande que les consommateurs éco-responsables. On est de plus en plus nombreux, mais ça fera moins de poids malgré tout qu'une grande entreprise ou qu'une grande administration.
Emmanuel Frenot, est-ce que en termes de production de déchets électriques et électroniques, on est tous égaux sur la planète ?
Non, clairement pas, non. Non, non, si on regarde... Alors, il y a un rapport... C'est même mieux qu'un rapport, ça sort tous les ans à peu près. Ça s'appelle le e-waste monitor. C'est une façon de surveiller nos déchets électroniques.
Hein. Oui, e-waste, c'est l'anglais pour déchets électroniques.
Et on voit bien qu'on est complètement inégaux devant les déchets électroniques. Et si on regarde leurs chiffres, en 2019, sur les 53 millions de tonnes qu'on a émises au niveau du monde, il y en a 13 millions qui sont émis par l'Amérique, 12 par l'Europe, seulement 2,9 par l'Afrique et 24 par l'Asie. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en Asie, s'ils émettent 24 millions de tonnes, ça revient seulement à 5 kilos par personne. Là où en Amérique, on est à 13 kilos par personne. Et ça inclut l'Amérique latine, donc des niveaux de vie différents.
Brazzaville, 93.2 FM.
Le recyclage. Bon, à Brazzaville, ici, souvent, on fait le troc. C'est aussi comme le recyclage. J'ai un vieux téléphone, par exemple, et je l'emmène en boutique, je rajoute un peu d'argent et on me donne un nouveau téléphone. Le recyclage dans ce sens-là, si.
Un message d'Altiane de Brazzaville qui nous expose sa solution à elle pour mieux consommer. Donc effectivement, on a parlé du marché de la seconde main et du troc dans ce cas-là. Samuel Sauvage, le problème, on pourrait aussi le prendre à la base au niveau de la fabrication. Est-ce qu'on sait faire des appareils électroniques avec des matériaux qui ne polluent pas ?
Alors, il y a toujours un impact, évidemment, mais on pourrait faire beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Ça veut dire concevoir un produit pour qu'il ait le moins d'impact environnemental tout au long de sa vie. Et en réalité, oui, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de dizaines de métaux ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des alliages à chaque fois ? Parce que quand c'est des métaux qui sont mélangés, ça va être d'autant plus difficile à recycler. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des appareils qui sont indémontables par un citoyen lambda, avec à chaque fois des formes de vis particulières, avec des batteries qui sont collées, etc. etc. Non, on peut faire un téléphone ou un ordinateur ou un autre appareil qui soit facilement réparable. Qui dit facilement réparable dit qu'on peut le comprendre, on peut voir s'il y a une pièce qui doit être changée par une autre. Bien souvent, quand il y a ne serait-ce qu'une petite pièce d'un appareil électronique qui dysfonctionne, eh bien, on est un petit peu contraint de devoir remplacer l'appareil en entier. On se rend bien compte que ça n'a pas de sens, surtout quand on prend conscience de la rareté de nos ressources sur cette planète, et que dès lors, il faut avancer vers des produits qui sont facilement identifiables, facilement réparables. L'exemple de Fairphone, on le connaît souvent, dans le sens où on peut facilement changer chaque pièce et donc le réparer, parce que la réparation, c'est une solution majeure. Mais on a des bouilloires, par exemple, quasiment éternelles avec une start-up française qui s'appelle Keep It. On a beaucoup d'initiatives, en réalité, de produits qui sont conçus pour durer. Il faut les faire connaître, parce que souvent, ça ne vaut pas plus cher à la longue. Si on sait qu'un produit va durer 2-3 fois plus longtemps, eh bien, ça vaut la peine d'investir parfois quelques euros de plus pour l'avoir et justement épargner à long terme, y compris sur le plan économique. Donc, vous avez raison, c'est vraiment ça la première question à se poser, c'est comment est-ce qu'on peut fabriquer autrement derrière la tyrannie du low cost, de faire à chaque centime une économie qui fait que derrière, les produits ne durent pas et qu'on se retrouve à payer plus cher à la fin, sans parler des déchets qu'on occasionne souvent à l'autre bout de la planète.
Rapidement, Samuel Sauvage, il y a quelque chose qui a été créé en 2020, un système de notation sur 10 contre le gaspillage, c'est l'indice de réparabilité. Et en 2024, on aura un indice de durabilité. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Oui, alors c'est des indices, ça vient de l'idée que le consommateur, souvent, il n'a pas l'information. Et donc là, c'est une première. Donc depuis 2021, sur les produits tels que les lave-linges, les téléviseurs, les smartphones, on a un indice de réparabilité, c'est-à-dire une note qui va vous dire si cet appareil va être facilement réparable. Donc ça, c'est déjà une première indication, parce que vous voudrez plutôt avoir un appareil facilement réparable, ce qui inclut d'ailleurs le coût même des pièces détachées, etc. Donc, première chose, c'est bien, mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, souvent ce qu'on veut, c'est un produit qui dure longtemps, pas forcément qu'on puisse le réparer. On préfère qu'il n'y ait pas de panne du tout. Et c'est pour ça qu'on a demandé, nous, en tant qu'association, parce que c'est un de nos combats historiques au niveau national, et on l'a obtenu qu'en 2024, on ait cet indice de durabilité, c'est-à-dire qu'on sera le premier pays en France à imposer qu'il y ait un indice de durabilité qui va donc informer le consommateur de la durée de vie estimée d'un produit, ce qui va vous permettre à vous, en tant que consommateur, de choisir le produit qui va avoir la meilleure durée et donc qui va vous permettre aussi à la fois d'être plus responsable au point environnemental, mais aussi de préserver votre pouvoir d'achat. Donc, il faut être très attentif parce que malgré tout, vous avez vu qu'il y a eu des élections en 2022, que parfois les gouvernements changent d'avis. Donc, il faut absolument qu'il y ait un maintien de ce cap pour qu'on garde cette information aux consommateurs de manière ambitieuse sur un maximum de produits. Parce que sans ça, eh bien, souvent, en tant que consommateur, on est perdu. Il faut bien l'avouer.
Alors, on a un dernier conseil qui nous provient de Issaka, qui vit à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il nous dit « Ici, rien ne se jette. On a des génies qui remettent en état de vieux téléphones portables et qui sont capables de transformer des réfrigérateurs en couveuses. » Donc, on peut toujours aller faire un tour dans son voisinage pour savoir si quelqu'un est doué pour recycler notre vieux frigidaire. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Emmanuelle Frenoux, je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse au laboratoire interdisciplinaire des sciences numériques à l'Université Paris-Saclay. Et merci aussi à vous, Samuel Sauvage, président cofondateur de l'association Halt à l'obsolescence programmée. Juste avant de se quitter, un extrait du dernier album de Kalash, c'est Tombolo sur RFI.
C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Elsa Olaizola, Juliette Bro et Delphine de Dianous, à la technique et à la réalisation Thibaut Baduel et Didier Chérouz. Demain, vous retrouverez Emmanuel Bastide à ce micro depuis Nouakchott, en Mauritanie, une émission consacrée aux droits des femmes. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur RFI.fr ou sur vos plateformes de streaming préférées. À demain, mardi, même heure, sur RFI.